Bonjour mesdames et messieurs, merci de vous être levés si tôt pour venir assister à cette table ronde sur l'humour dans la science-fiction. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Alexandra Ivy qui vient de loin, des États-Unis, pour assister à ces imaginales. Laurent Genefort qui se trouve tout à gauche. Et Jean-Claude Duniac, juste ici, avec déjà un micro dans la main. Ah ben voilà, Laurent aussi.
Ça s'appelle un professionnel, mon cher.
Et Sylvie Miller devrait nous rejoindre incessamment, puisqu'elle vient d'arriver. Je la vois d'ailleurs là-bas. Elle va pas tarder à arriver. Bien.
La petite Sylvie Miller est demandée par ses parents sur l'estrade. La petite Sylvie Miller.
Ah, elle a entendu.
Voilà, la petite ouais. Sylvie Miller est demandée par ses parents sur l'estrade.
Excusez-moi, en train de régler des problèmes techniques. Toujours pareil.
Oui, c'est là. Bienvenue, oui, il n'y a pas de souci. Bonjour, Sylvie. Voilà. Donc, nous sommes au complet. C'est extraordinaire pour un matin à 10h. Bravo, félicitations à tout le monde.
Alors, et il fait beau, ce qui est encore plus extraordinaire.
C'est vrai. On classe souvent la science-fiction en fonction de ses thèmes, mais rarement en fonction du ton qu'elle emploie. Or, l'humour peut donner un ton particulier à la littérature d'anticipation. Alors, je voudrais commencer par faire un peu de publicité. MDIK, publicité. Missionnaire de luxe, installation kit. Félicitations, vous êtes désormais l'heureux propriétaire d'un MDIK. Nous avons fait le maximum pour vous faciliter la tâche lors de votre premier contact avec vos wides au-delà des cieux. Afin de tirer le meilleur parti de notre kit, suivez attentivement les instructions de cette notice. 1. Gonflez la cathédrale. La valve de gonflage se branche sur le pot d'échappement de votre vaisseau spatial. En cas de problème, pour d'échappement non conforme, écrasement de votre vaisseau lors de l'atterrissage, un gonfleur à bouche est fourni. Les délais d'installation ne sont malheureusement pas identiques dans les deux cas. Pendant que l'édifice s'élève, une musique majestueuse produite par les grandes orgues retentit, portée environ 2 km, mortelle jusqu'à 500 mètres. Il est toutefois possible qu'au départ, le son de l'instrument se rapproche de celui d'une cornemuse. Cela est tout à fait normal et disparaîtra au cours du gonflage. Nota, il vaut mieux mettre les tuyaux d'orgue hors circuit si vous utilisez le gonfleur à bouche. 2. Installez les vitraux, entre parenthèses, modèle de luxe. Pour les autres modèles, nous tenons à votre disposition de nombreux kits de fenêtres, vérandas, gargouilles, etc. Demandez notre livret, construisez vous-même votre cathédrale. 3. Dépliez la croix et plantez-y le Jésus. Marteau non fourni. Nota, pour des raisons de simplicité d'installation, le Jésus est fourni avec deux bras gauches. 4. Installez le chemin de croix. Existe aussi un braille sous une forme assimilable par tout pseudopode et tentacule. Nota, au dos des 36 stations figurent des illustrations extrêmement réalistes des 36 positions destiné à expliquer aux populations humanoïdes pourquoi celle du missionnaire est la meilleure. Les troncs sont prévus pour recevoir toutes sortes d'équivalents monétaires, pièces, billets, mais aussi denrées périssables, animaux vivants, excréments riches en phosphate. Attention, en cas de problème, votre kit se transforme en habitation de survie. La paroi extérieure de la cathédrale est électrifiable. Les hosties sont reconvertibles dans notre ciboire spécial, parfum d'hiver. Pizza, tarte aux pommes, homard, modèle de luxe. En cas d'urgence, le Jésus est entièrement constitué de rations de survie compressées. Bien le faire bouillir avant consommation, surtout si vous avez l'habitude de conduire des processions de vos fidèles pour baiser les augustes pieds de la statue. Nous vous souhaitons bon courage pour votre mission civilisatrice d'évangélisation de nos frères extraterrestres. Soyez sans inquiétude et rappelez-vous notre devise. Sauvez leur âme. Nous sauverons votre peau.
L'inconvénient quand on écrit des conneries, c'est que ça vous suit pendant une longue période de votre vie et en plus en public. Alors je vous remercie de ce grand moment de solitude que je viens de partager avec vous et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Je vous promets que je ne le recommencerai plus jamais.
Alors, question quand même plus générale. Quelle place tient l'humour dans votre œuvre, Jean-Claude Duniac?
Ça me permet à 10h du matin de regarder un public qui se marre et de me dire « Putain, qu'est-ce que tu es con, mon pauvre !» Ce qui est un exercice extrêmement, je dirais, fondamental parce que l'humour dans notre domaine, on a une chance énorme, c'est qu'à la limite, on est tous des gens cultivés dans le domaine de l'imaginaire. Donc quand je me moque du Seigneur des Anneaux, ça parle à tout le monde dans ce lectorat-ci. Ça vous parle à tous parce que vous savez tous ce que c'est. Vous avez tous soit vu le film, soit lu le bouquin, soit les deux, soit entendu parler du truc. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on peut s'amuser à ça. Et c'est aussi de temps en temps, il faut quand même le reconnaître, il m'arrive assez régulièrement de péter les plombs, de me réveiller la nuit avec une idée de jeu de mots tellement pourrave que j'estime qu'il doit être gravé dans le marbre pour l'éternité. Et croyez-moi, dans le prochain bouquin que je vais sortir, qui est une série d'histoires de trolls, il y en a. Et il y a de la pomme et il n'y a pas que ça. Et donc je me dis qu'à un moment donné, c'est merveilleux que non seulement on puisse se lâcher, mais avec une espèce de plaisir débridé, et qu'en plus on vous paye pour ça. Vous voyez ce que je veux dire ?
Alors en plus, Jean-Claude est tellement connu pour ça que dans le milieu, quand quelqu'un sort la vanne la plus pourrie du monde, il y a toujours quelqu'un pour dire « Jean-Claude Duniac sort de ce corps ».
Alexandra Ivy est l'auteur d'une série qui s'appelle « Les gardiens de l'éternité » et qui compte déjà 10 volumes, dont 8 ont été traduits en français. Les récits de vampires baignent dans le sang et sont plutôt effrayants. Existe-t-il une recette pour les rendre moins angoissants ? Est-il possible de les farcir avec un brin d'humour, Alexandra Ivy ?
Yes, it's very important. I fell in love with Buffy, the Vampire Slayer, and I was fascinated by the ability to mix horror and romance and humor. And I love to read dark, angsty material, but when I write, it doesn't matter how much I try to make dark. Pretty soon there's a joke or a tiny gargoyle, or my voice is light and filled with humor, so that's what I write.
Je veux dire que j'ai été beaucoup influencée par Buffy, je pense que tout le monde connaît Buffy ici, et je trouve merveilleux que l'on puisse ainsi fusionner humour, horreur et ce genre de et le romantisme également, et mettre tout cela ensemble. Donc quand j'écris et que je vois que je tombe dans le côté un peu plus sombre de ma narration, eh bien j'ajoute tout de suite une touche d'humour avec une gargouille où je mets des blagues. Donc mon ton est surtout léger et humoristique, je dois dire.
Un autre extrait tiré d'un ouvrage qui s'appelle en fait Alien mode d'emploi. La voiture. Avant de faire monter un alien dans une voiture ou un camion, expliquez-lui la fonction et les caractéristiques de l'engin. Vérifiez la masse de l'alien afin que la structure de l'habitacle la supporte. Vérifiez également s'il n'exude pas de substances corrosives ou toxiques. La voiture est un milieu fermé où il est facile d'étouffer. Ne vous fiez pas à la climatisation et laissez toujours une fenêtre entrouverte. On signale le cas à Alger d'un alien s'étant emparé d'un tractopelle, ayant fusionné avec l'engin et ayant causé de nombreux dommages avant de tomber en panne de carburant. Le train. Dans beaucoup de pays, les trains possèdent des compartiments réservés aux aliens. Ces mesures, ségrégationnistes pour certains, sont au contraire présentées par les compagnies ferroviaires comme garantissant la sécurité des aliens, même des aliens qui empruntent ces moyens de transport. Elles ont été mises en œuvre après des frais divers médiatisés avec pour objectif d'empêcher aliens et humains de se mélanger. Alors, c'est un petit extrait de Alien mode d'emploi. Pourquoi vous avez trouvé indispensable d'écrire un mode d'emploi de rencontre avec les aliens pour les terriens, Laurent Genefort?
C'est après la lecture du guide de survie en territoire zombie. Et je m'étais dit que j'avais une sorte de frustration parce que je m'étais dit que ce serait rigolo de dans le cas des zombies, d'essayer de communiquer avec. Et finalement, c'était un guide survivaliste pur. Et je me suis dit, je vais plutôt que de faire un guide de survie, je vais faire plutôt un guide de bonne manière. Et c'est à mi-chemin entre les deux. Donc j'ai un peu trahi le lecteur en présentant plutôt, finalement, c'est plus riche d'interagir de toutes les manières possibles plutôt que d'essayer de zigouiller l'alien qui vient nous visiter. Voilà, c'est ça.
Ça demande beaucoup de réflexion d'écrire un ouvrage quand même assez épais. Je me pose la question justement de savoir si l'humour est plus praticable dans la forme courte ou dans une forme longue. Qu'est-ce qui est le mieux?
Demande à Pratchett pour les formes longues. Hein, je veux dire, il a quand même fait un certain nombre. Il y a eu des formes courtes aussi. Il y a en écho à ce que dit Laurent sur l'alien mode d'emploi. Il y a une nouvelle qui a été publiée, je crois, au début des années 80 dans la revue Univers. Son titre m'échappe, je m'excuse, c'est Alzheimer, ce qui n'est pas drôle. C'est une nouvelle qui est simplement un guide de conversation par rapport aux extraterrestres. Donc il n'y a que les phrases en français à traduire en extraterrestre. Et donc on apprend à traduire la phrase « Ceci est à moi intrinsèque, ceci est à moi extrinsèque, non, je ne suis pas comestible ». Ceci a-t-il une connotation sexuelle? Vous voyez, des choses de ce genre. Je suis en train de mourir. Je suis en train de mourir pour manque d'oxygène. Je suis en train de mourir parce que vous me dévorez. Je suis en train de mourir parce que vous êtes assis sur moi. Enfin, tout un tas de phrases extrêmement importantes. Et le texte est absolument extraordinaire parce qu'il y a une espèce, je ne peux pas dire d'histoire qui se déroule, mais on se dit, je débarque sur cette planète, et ben, j'ai quand même un certain nombre de problèmes qui m'attendent. Vous voyez. Et ce qui est merveilleux, c'est que c'est une histoire parfaitement induite par le texte. Et l'humour fonctionne très bien dans ces cas-là.
Dans votre œuvre, Sylvie Miller, quelle importance accordez-vous justement à l'humour?
Alors, moi j'adore l'humour, mais enfin, l'humour a une certaine place, mais pas nécessairement, puisque j'ai aussi écrit des textes très noirs, de fantastique. Bon, dans Le Chant de Montségur, il n'y a pas spécialement de l'humour, mais l'humour est très très présent, évidemment, dans les aventures du détective Lasser, donc... détective en Égypte dans les années 30, mais une Égypte où il y a encore les pharaons et où les dieux se promènent au milieu des hommes. Alors, comme c'était un joyeux mélange de tout un tas de choses, d'uchronie, de fantaisie, d'enquête, parce que c'est des vraies enquêtes, bah évidemment, là, l'humour s'est mêlé, puisque, notamment quand on voit la façon dont est traité le dieu Seth, qui est quand même un des dieux les plus méchants du panthéon égyptien, donc nous, on prend un malin plaisir à en faire un dieu qui n'a pas les moyens de ses ambitions et qui, à chaque fois qu'il essaye de faire un truc, le rate, mais qui est quand même très dangereux, parce que les conséquences de ce qu'il fait peuvent être... bon, c'est un dieu, donc... mais enfin, il se plante tout le temps, il est ridicule. Notre détective est souvent aussi dans des situations... Alors, on arrive à aller entre l'humour et puis par moments, le sérieux qui revient, et puis paf, un rebondissement et on rit à nouveau. Donc, effectivement, ça a été vraiment un vrai plaisir de jongler avec l'humour dans cette série.
Une question plus générale, qu'est-ce qu'apporte l'humour à une œuvre de science-fiction?
Le recul et la distanciation. Le problème, c'est que quand on est dans un ton, on est dans un ton sérieux, on est dans un ton grave, on est dans un ton tragique, on est au service d'un message que l'on fait poser. Quand on n'a pas d'idée du message ou quand on veut souligner quelque chose qui, je dirais, dont on est conscient que c'est notre opinion, mais qui n'est pas celle de tout le monde, l'humour, c'est le pas de côté. Je veux dire, on met les Capulet contre les Montagu, qu'on le raconte du point de vue des Capulet ou des Montagu, c'est tragique. Qu'on le raconte du point de vue du type qui est sur le toit en train de les regarder se battre, il leur dit, vu d'ici, vous êtes ridicule. Et c'est comme ça que je peux le raconter. D'accord ? Et ce travail est en permanence de faire un demi-pas de côté pour regarder. Et ça, c'est quelque chose que personnellement, j'apprécie de faire, de me dire, mes convictions sont profondes, mais elles ne s'appliquent qu'à l'intérieur de mes petits bras. Dès que j'en sors, il faut que je m'en moque. Je ne vais pas vous faire un grand baratin sur ce qu'il faut faire. Je vais me moquer moi-même de ce que je pense. Et on verra ce qu'il en reste.
Et c'est vrai qu'à travers l'humour, on peut aussi souligner des traits grossiers de certains personnages. Je pense à ce personnage du dieu Seth. Voilà, bah, une personne qui a beaucoup de pouvoir et qui, à un moment donné, se prend vraiment à un égo surdimensionné. On peut arriver à un point où c'est vraiment ridicule et où la personne n'en est plus du tout crédible. Et donc, à travers l'humour, on peut montrer un certain nombre de travers des dieux ou des êtres humains.
Et on peut aussi prendre en permanence le lecteur à contre-pied. Vous pouvez écrire une histoire dans laquelle il y a un livre des malédictions écrit par un nécromant extrêmement puissant et découvrir en cours de route que le livre des malédictions a été recueilli par son apprenti parce que le méchant nécromant était en train de construire son laboratoire secret. Il se servait d'un marteau et chaque fois qu'il se tapait sur les doigts, il y avait le type qui recueillait la malédiction qui était en train de pousser. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous annoncez quelque chose, vous promettez quelque chose, et puis complètement à la fin, vous êtes dans une situation dans laquelle vous avez tenu vos promesses, mais c'est totalement ridicule. Et puis moi, ce que j'aime, c'est d'avoir le héros qui arrive à l'entrée d'un marais maléfique où on voit des crocodiles rôder à gauche et puis au loin, on voit les serpents d'eau qui se dirigent vers lui tandis que les sables mouvants se préparent à l'envahir et que la brume sinistre le recouvre. Et à ce moment-là, il demande son chemin à une ondine et elle lui dit « c'est plus court par ici, mais c'est plus joli par là ».
Cette distanciation, ce regard extérieur, c'est ce que vous utilisez aussi, Alexandra Ivy, dans vos récits?
Yes, I think when I'm writing, I use humor to confront the fears that people have, and it's a nice way of looking at what we are terrified of, the end of the world, aliens landing, and it does give you the distance. And with the humor, you can look at it directly without the dark and the fear. And it gives you, like you said, it gives you a new perspective of looking at your own fears.
Oui, j'utilise également l'humour pour confronter les craintes des gens, les craintes pour qui concernent la fin du monde, par exemple, ou l'arrivée des aliens. Donc ça permet une certaine distance, effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous. Et je pense que cet humour nous permet de faire face à toutes ces situations.
Il y a plusieurs formes d'humour.
Il y a un humour chez Laurent qui est un humour éducatif. Parce que Alien Maître d'Emploi, mine de rien, c'est un hymne à la différence et à la tolérance, mais tu le fais avec humour.
Bah, c'est une sorte d'humour pince sans rire, parce que j'essaie de dire ça avec sérieux. Et en plus, il y a des vrais conseils de bon sens. Donc, c'est censé fonctionner, en fait. Voilà, ça peut toujours servir. Mais en fait, l'humour et la science-fiction, je trouve que ça va bien ensemble. D'abord, moi qui suis plutôt science-fiction que fantastique, j'ai une plus grande culture à ce niveau-là. J'ai grandi avec Frédéric Braun, avec Shakley, avec Rudy Rucker. Ça va très bien, enfin, ça va très bien ensemble. Oui, oui, oui. Enfin, il y en a plein. Et en fait, je pense, c'est pas évident en fait de marier les deux. On peut se dire que finalement, le décalage de l'un pourrait nuire au décalage de l'autre, enfin au décalage par rapport à la réalité de l'autre. En fait, non. Des fois, ça se renforce, ça rentre en résonance et ça fonctionne.
Mais Jean-Claude, vous parliez tout à l'heure de Terry Pratchett. Terry Pratchett, il a fait son fonds de commerce avec l'humour. À ma connaissance, je ne sais pas s'il y a un auteur francophone qui a fait ça de manière systématique. J'ai plutôt l'impression que c'est quand même anglo-saxon quelque part.
Sternberg,
non, pas ouais, mais pas tout le temps. Non,
oui, mais pas tout le temps, effectivement. Et puis de manière, je dirais, peu... Enfin, par rapport à Pratchett, il n'y a quand même pas cette dimension-là. Non, c'est vrai qu'on l'a relativement peu fait parce que, d'abord, l'humour en France n'est pas nécessairement vu comme une forme noble. On fait de l'humour pour se relâcher, on fait de l'humour pour se détendre. D'accord, c'est un bouquin drôle, mais c'est quand même moins bien que s'il était sérieux. Alors, si on veut plaire, je dirais, au milieu germano-pratin, si on veut être critiqué, c'est pas tellement l'humour qui nous fera vendre, si je puis dire, c'est plutôt le côté sérieux, lourd, enfin bon, c'est pas grave, ça change, et puis surtout dans le domaine de l'imaginaire, l'humour est parfaitement admis, il n'y a pas de problème, mais le policier humoristique est relativement rare en France, alors qu'il est assez courant aux États-Unis, l'horreur humoristique, c'est la même chose, Pratchett n'a pas d'équivalent chez nous, et je dirais que c'est vrai qu'on a de ce côté-là, par rapport au public, un certain recul, après tout... L'humour est une chose trop sérieuse pour le confier à des rigolos, comme disait Fred, et c'est vrai que c'est un problème qu'on a.
Ne pas se prendre au sérieux, n'est-ce pas une façon de se prendre au sérieux? Enfin, je veux dire, est-ce qu'un message emballé dans la crème de l'humour, il passe mieux que si on le dit sérieusement? Enfin, je ne sais pas comment bien exprimer ma question. Par exemple, ça, ça peut être intéressant par rapport à Alien Mode d'emploi.
Bah, Alien Mode d'emploi, c'est difficile. En fait, c'est l'inverse. Ce serait difficile de ne pas mettre d'humour dedans, en fait. Parce que ça s'impose plutôt. Maintenant, oui, c'est vrai que ça, l'humour désamorce aussi. C'est une forme de conjuration. Donc, ça désamorce des situations qui sont... Il y a des situations épouvantables qui sont générées par les aliens ou les réactions face à l'altérité. Et l'humour, oui, c'est aussi une manière de... Mais comme ce guide, c'était aussi un pastiche. Or, dans les guides pratiques actuels, il y a plein d'humour. Les guides, pas seulement les guides comme zombies ou robots, mais les guides pratiques. Quand vous achetez un guide, en fait, il y a souvent de l'humour dedans, en fait. Ça fait partie de... Donc, c'est la dimension éducative dont tu parlais, ça fait partie de on enregistre mieux quand on s'amuse aussi.
Mais je pense que quand on écrit, pour revenir à ta question, on n'utilise pas nécessairement l'humour en se disant « Tiens, alors là, je vais mettre de l'humour parce que comme ça fera passer le message. » Je pense que de façon beaucoup plus pragmatique, bah, ça vient comme ça vient. Et à un moment donné, on a un trait d'humour qui passe. On se dit « Tiens, là, ça serait bien. » Et enfin, moi, je sais que personnellement, avec Philippe, quand on écrit, on n'a pas comme ça d'arrière-pensée ou de plan. L'humour se glisse là parce que c'est la scène qu'il veut, parce que les personnages, on se dit bon, ben, et puis ça vient tout seul.
C'est vrai que quand on pense au guide pour les nuls, effectivement, il y a beaucoup d'humour dedans aussi. C'est tout à fait ça.
Ouais.
Est-ce que vous avez des projets de récits humoristiques actuellement oui, il y a la série Lasserre.
Oui, la série Lasserre, donc le tome 3 qui est en cours d'écriture, et puis des projets pour un tome 4 et 5, on a déjà des idées. Donc si le lectorat suit, forcément il y aura des suites. Donc il y a ça en projet. Donc effectivement, on va continuer à écrire de l'humour, enfin en tout cas pour Philippe et moi.
Moi, je suis sous la coupe d'un éditeur impitoyable, en l'occurrence La Talente, qui exige de moi contractuellement que je sois drôle, et qui m'a dit « Les seuls textes de toi que les gens acceptent de lire pratiquement jusqu'au bout, c'est ceux qui sont drôles, d'abord parce qu'ils sont courts, et ensuite essentiellement parce qu'ils sont drôles. » Et donc elle m'a dit « C'est bien qu'à un moment donné, tu réfléchisses à ça et que tu te rendes compte des limites que tu peux avoir en tant qu'écrivain et donc d'essayer de faire croire aux gens que tu es sérieux pour essayer au moins de faire le pitre, ce que tu fais quand même remarquablement bien. » Et m'inspirant de ces conseils frappés au coin du bon sens et d'une grande sagesse et qui en plus sont associés d'un contrat, j'ai décidé d'écrire une série d'histoires de trolls. Vous avez peut-être lu des histoires de trolls dans différents de mes recueils, dans une anthologie qui était parue il y a 2 ans ici, qui s'appelait Magicien et sorcier. Et donc, mon personnage de troll, qui est ça se passe dans un univers de fantasy, mais qui est un univers de Dilbert. C'est-à-dire que le monde de la fantasy s'est séparé du monde humain à peu près à l'époque du roi Arthur. Et donc les nains, les elfes, les trolls, les nécromants et autres chevaliers teutoniques sont venus s'installer sur le monde de la fantasy et ont développé la même civilisation que nous. C'est-à-dire qu'ils ont Internet, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes de gestion administrative et qu'on a mis les méchants nécromants pour faire les ressources humaines, ce qui est quand même une façon assez normale de les utiliser. Et donc j'ai cet univers-là, et cet univers me plaît beaucoup parce qu'il y a ce personnage de troll qui est un personnage con comme un balai bas de plafond et qu'on a mis en tant que contremaître en bas de la mine parce que c'est le seul qui est capable d'écraser suffisamment de nains pour qu'ils ne se reproduisent pas trop. Et donc ce personnage, donc plein d'une grande tendresse que l'on qualifiera de brute, vit des aventures et là, il y a un roman entier constitué de 4 nouvelles enchaînées dans lequel ce troll va vivre tout un tas d'aventures. Troll qui a un stagiaire, dont le stagiaire a un copain, qui va se payer au fur et à mesure des histoires, qui va vraiment se taper la guerre en Irak, Léonard de Vinci, la crise financière internationale, tout un tas de choses. Excalibur, je vous promets qu'Excalibur ne survit pas à la rencontre avec mon troll. Et tout ça, c'est une chose absolument merveilleuse, parce que tous ces trucs-là, ça fait longtemps que j'avais envie de leur péter la gueule. Et le troll me sert merveilleusement de porte-parole, et je me lâche totalement, et je me relève la nuit pour noter les jeux de mots les plus pourraves que je peux avoir. Et croyez-moi, il y en a. Et donc, je m'attends à ce que ce livre ait énormément de succès en raison de sa bêtise et de son absence totale de sens moral et d'une utilité, d'ailleurs, que je qualifierais de totale. Non, je suis plus placide que Musso, si tu veux. Voilà. Ça, j'aurais pu le mettre dans le bouquin, vous voyez, pas.
Laurent Genefort. Des...
alors, non, non. Dans mes projets, il n'y a pas de roman humoristique. Je viens de terminer un roman d'Omal, et ça rigole pas tous les jours, hein, sur Omal. Donc, non, non. C'est pas dans mes projets immédiats.
Ouais. Mais en fait, c'est... écrire les fleurs d'Omal, ça sera au moins
moi,
une parodie.
Ouais, voilà. Mais je trouve que la fantaisie se prête bien à l'humour. Oui, oui. J'aurais jamais osé la faire, celle-là. On ne retrouvera pas ton jeu de mots dans un de mes romans.
Et puis, Alexandra Ivy, vous continuez la série des gardiens de...
Yes, I'll continue the series. And when I'm writing them, I don't necessarily start off to put humor in the series. But as I'm writing them, I always start off with the romance because they're paranormal romances. And so I try to focus on the romance. But when I write, I think my voice is just meant for the humor because I can't write the darker.
Oui, je continue la série, tout à fait. Au départ, quand je commence à écrire un roman, je ne pense pas trop à l'humour que je vais y mettre, mais en cours d'écriture, ça ressort. Et en fait, au départ, ce doit être des romans un peu sentimentaux, puisque j'écris dans le genre de la paranormal romance. Mais l'humour finit toujours par ressortir, parce que c'est ma personnalité, et je n'y peux rien, quoi. L'humour ressort tout le temps.
Et est-ce que là, l'humour n'est pas indispensable dans une romance? Isn't humor indispensable in a romance?
Some people write very dark and very angsty, and I cannot. I mean, and even when I started the series, I meant it to be a straight romance or a paranormal romance, and then, like I said, a little gargoyle shows up or something ridiculous happens. They get in ridiculous situations. So it doesn't matter how I plot it out. At some point, something silly is going to happen. I can't stop myself. It's a sickness.
We love that.
Alors au départ, en fait, je voulais commencer par écrire un roman sérieux. Il y a des gens qui arrivent à faire des romans très sombres, mais moi, je n'y arrive pas. Et dans mes romans, il y a toujours la gargouille qui arrive, ou alors il y a une situation ridicule qui se produit. Donc je ne peux vraiment pas m'en empêcher. Il y a toujours ces situations qui surgissent, et l'humour, c'est souvent malgré moi.
Alexandra a parfaitement raison sur un point. Je veux dire, l'humour, ce n'est jamais de l'humour tout entier. Il y a d'abord régulièrement un filet de vinaigre. Vous avez très souvent un personnage qui est un personnage désabusé, qui vit des choses humoristiques et qui est conscient de la chose, mais il est aussi conscient du fait que c'est usant un petit peu. Ça donne Mémé Cire du Temps chez Pratchett, ou Nounou, qui est une personne tout à fait contente, elle, il n'y a pas de problème. Mais Mémé Cire du Temps, elle est quand même consciente de la fragilité des choses, de sa propre fragilité, de son âge. Et si elle fait de l'humour, et si Pratchett fait de l'humour, c'est toujours en disant, ok, mais le personnage central, quand même, ce qu'il vit, c'est pas nécessairement si rigolo que ça, c'est le regard et le point de vue que je choisis qui le rendent amusant pour vous. Et on est dans le cas d'un auteur, on est dans la position du funambule, c'est-à-dire que écrire à la première personne un texte humoristique, c'est se regarder soi-même glissé sur la peau de banane, vous voyez ce que je veux dire? Ce qui est un exercice un petit peu difficile, parce que la différence est mince. On dit que la différence entre la tragédie et la comédie, c'est que la comédie, c'est tu glisses sur une peau de banane, mais la tragédie, c'est je glisse sur une peau de banane. Et nous, on est en train de glisser sur la peau de banane tout en regardant du point de vue de la personne à côté qui dit « Putain, t'es ridicule quand tu glisses sur la peau de banane. » Oui. Donc on a cette espèce de côté désabusé. On n'a pas nécessairement un personnage heureux. On a un personnage qui avance parce qu'il faut faire les choses. Et ce qui lui arrive est drôle. Est drôle parce que l'essence même du monde est drôle si on décide de la regarder comme ça. Mais c'est parce qu'on a mis la caméra légèrement de côté. Et cet exercice de mettre la caméra de côté, j'adore autant le faire dans ma propre vie que de le faire dans mes livres. Et je crois qu'on ne fait de l'humour que quand on a appris à se moquer de la personne la plus drôle du monde, c'est-à-dire soi-même, à condition de se regarder de l'endroit où on voit à quel point on est ridicule. Je veux dire, se regarder dans une glace, c'est une chose. Se regarder en train de se regarder dans une glace, c'est ridicule. Et moi, je fais ça tous les matins. Et croyez-moi, mes propres rires courent ceux de mon épouse.
intéressant comme point de vue, effectivement.
Celui de mon épouse ou mien?
Non, non, le tien. je voulais demander aussi est-ce qu'on pourrait dégager une constante de l'humour dans la science-fiction. Est-ce que c'est un humour particulier ou est-ce que c'est un humour qui se rapproche de l'humour en général, en fait?
Nous l'appelons Zeta-Phi et elle est égale à intégrale de... Mais on sait que c'est une constante, si tu veux, parce que le phénomène de convergence, tout au moins au point d'infini où nous sommes, lui permet d'avoir une valeur dont on sait qu'elle est statistiquement fixée en un point donné, si tu veux. Donc je t'écrirai l'équation, il n'y a pas de problème. On peut passer à une autre question.
Il n'y a pas de constante, alors?
Il y a une phrase très célèbre dans les lois de Murphy qui dit en anglais « Variables won't, constant aren't ». Ça veut dire les variables ne vont pas varier et les constantes ne le sont pas.
Oui, sur l'humour, déjà en plus, il y a plusieurs formes d'humour en fait. Dans ce que j'ai pu lire, il y a par exemple de l'humour qui est de l'humour sur des jeux de mots, sur des noms, il y a de l'humour de situation. Notamment dans le tome 3, il y a un jeu de mots qu'on a trouvé il n'y a pas longtemps avec Philippe, donc on a rigolé avec ça. Et bon, on s'est dit, ça fait rien, on le met. Lasser, effectivement, va aller en Phénicie. Quelqu'un lui précise que la déesse Astarté est vénérée en Phénicie aussi. Ça y sera. il y a d'autres situations.
C'est pathétique, j'aurais pu la faire. Est-ce que tu te rends compte que j'aurais pu la faire?
Justement, on était avec une troisième personne et on a entendu le fameux Jean-Claude Dignac sort de ce corps. Donc il y a aussi de l'humour qui est issu des situations. Par exemple, Lasser qui recherche le 15e morceau d'Osiris se retrouve dans le ventre d'un crocodile géant. Alors il a réussi à maintenir la gueule du crocodile ouverte grâce à une lance qui s'active ou se désactive avec il y a un mot pour l'ouvrir, un mot pour la fermer. Il finit par retrouver le fameux morceau. Là il est content, il remonte et il se dit: ah oui, au fait, alors les mots de passe pour la lance, alors bon, pour ouvrir c'est ça, pour fermer c'est ça, bling, la lance se referme et il se retrouve piégé dans le croco. Donc ça, c'est de l'humour plus de situation. Donc
pour lui, non.
Pour lui, non, mais le lecteur s'y attend parce qu'il fait des bêtises comme ça tout le temps. Donc,
Oui, puis c'est le genre de truc qu'on apprend quand on est auteur à les préparer 15 lignes à l'avance. Si vous voulez que le jeu de mots tombe bien pile comme il faut, etc., vous êtes obligé, vraiment une demi-page avant, de mettre en place les éléments de manière naturelle, normale, de manière à ce qu'on ne voit rien jusqu'au dernier moment, et vous vous dites: ah oui, là, et puis pan, on prend le jeu de mots dans la gueule, c'est trop tard. C'est-à-dire, le seul moyen que la balle vous arrive dans la figure, c'est de l'avoir lancée une page avant. Et ce travail, ça oblige à être en permanence en train d'écrire avec... en courant à l'avance de son texte pour savoir ce qui va se produire. C'est-à-dire, on jette la tarte à la crème et on court très très vite pour la recevoir. Vous voyez, c'est vraiment un boulot et c'est fascinant à faire. Et de temps en temps, on se retrouve à rigoler comme un bossu devant sa feuille ou devant son écran et on se dit: mon Dieu, mais non, est-ce que je vais pas oser? Et moi, j'ai la chance, j'ai des enfants qui lisent mes textes en avance et qui me disent: papa, tu vas pas publier ça. Et je dis: si, si, mais pas sous notre nom de famille respecté. Moi, j'ai une carrière, j'essaie d'avoir une vie. Je dis: ben si. Et on peut divorcer de ses parents? Je dis: ben non. Ben vas-y alors.
Il y a un nom que tu devrais apprécier, toi qui aimes beaucoup la musique et le rock. Donc nous avons notamment, je crois que c'est dans le tome 1, le célèbre joueur breton d'oud électrique, Elric Tapton.
Oui, 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 je le connais bien. Non, mais j'en ai remarqué un certain nombre.
Mais on peut. Enfin, je vais vous donner un exemple de machin qu'on prépare. Vous voyez, j'ai mes héros, mon troll, donc, et son stagiaire qui vont à la taverne. Le stagiaire est déjà dans la taverne. Donc, le troll s'approche de la taverne et il y a une bagarre. Donc, il y a des chopes qui volent partout, enfin, etc. C'est le truc qui va bien. Et il rentre, il écarte les nains, il voit son pauvre stagiaire effondré sur le comptoir. Il le relève, il voit que son visage est complètement bleuté, avec un beau liséré rouge autour du bleu, etc., etc. Enfin, on lui a refait complètement le visage. Et le troll demande au garçon: qu'est-ce qui lui a refait retravaillé le visage comme ça? Et le garçon répond: c'est la Photoshop.
Je sais, c'est pathétique, mais je veux dire, il faut le préparer une page à l'avance, vous voyez ce que je veux dire, parce que sinon, c'est même pas drôle, vous voyez. You can translate that, and believe me, be happy.
Donc, comme vous pouvez le constater, Jean-Claude est notre maître à tous.
C'est bien parce qu'à ce moment-là, en général, le modérateur est complètement planté. Donc, voilà, on va pouvoir l'attaquer rock'n'roll.
Ouais, bon. Je vais demander s'il y a une question de la salle.
J'espère le sortir en début d'année prochaine. Là, c'est fini. On va en discuter avec Mireille Rivalan. Mais c'est un bouquin que je me suis tellement régalé à écrire. C'est vraiment un truc. J'en ai pris tellement de plaisir que je me dis que bon, il y a au moins une personne que ça fera rire dans l'assistance. C'est moi. C'est quand même bien. Donc, je me suis promis d'acheter au moins un exemplaire de mon livre pour tout ce monde.
Et alors, faisant partie de l'équipe du festival, je plains la personne qui va modérer le débat où tu vas présenter le bouquin.
Non, à ce moment-là, je peux être extrêmement sérieux en disant oui, en fait, c'est quelque chose qui parle véritablement du mal-être tragique quand on est de pierre et qu'en plus, l'articulation commence à se coincer et qu'on a des crevasses partout. Je veux dire, on a des choucans, on est obligé de sortir les nids, enfin, c'est pénible. Vous voyez, ça vous fait pas rire, hein? Mais pourtant, c'est le drame que vit mon personnage au quotidien. Sauf que j'essaie de le raconter d'une façon légèrement plus approfondie pour éviter que les gens fassent la quête, si vous voulez. Parce qu'ils en verraient au personnage et pas à moi, donc je préfère à la limite qu'ils achètent le livre. Oui. Mais il faut savoir qu'il y a tout un tas de films, en particulier américains, genre Y a-t-il un pilote dans l'avion, genre Top Secret, etc., dans lequel le principe même qui est, on prend une catégorie de films, le film d'espionnage, le film de surf, le film de catastrophe aérienne, et on le traite en y mettant le maximum de gags à la con, de manière à ce que l'histoire, qui est une histoire a priori tragique, je suis dans un avion qui risque de s'écraser, etc., ne soit qu'une espèce d'immense éclat de rire de mauvais goût et tellement délicieux. C'est quelque chose qui a une tradition cinématographique, etc., très, très longue. Hein, et donc, nous, on peut tout à fait s'amuser à faire ça avec des bouquins.
En plus de ça, les formes fixes, comme la fantasy, la science-fiction très codifiée se prête d'autant plus à l'humour qu'elles sont codifiées. En fait, plus c'est codifié, plus c'est marrant parce que plus c'est fun de contourner les codes.
Oui, on peut détourner les codes, effectivement. Ouais.
C'est ce que faisait Braun. Hein, c'est ce que faisait Frédéric.
Vous prenez une licorne, objet absolument magnifique, je dirais animal indispensable, tout empli de pureté, qui ne peut, enfin, je veux dire, dont on n'imagine pas qu'on puisse construire une histoire où il y a une belle princesse vierge à un moment donné sans qu'une licorne qui apparaisse, parce que elle est littéralement la preuve que le truc fonctionne. Vous la mettez dans un univers entre guillemets industriel, les licornes ne servent plus à rien. Donc vous pouvez parfaitement raconter une histoire tragique dans laquelle, pour des raisons de compression de personnel, on élimine les licornes, jusqu'au moment donné où le héros sauve les licornes parce qu'il a trouvé un moyen d'utiliser la licorne en mettant la corne comme porte CD. Ce qui fait qu'à ce moment-là, tout bureau un petit peu arrangé permet d'avoir une licorne à ses pieds où on met les CD, et comme ça, on peut garder la licorne, on peut lui trouver du travail, et elle n'est pas obligée de mourir littéralement de faim dans un milieu industriel qui la rejette. Oui. Et donc, vous faites à la fois une analyse sociale et sociétale de la façon dont le monde évolue en abandonnant les choses importantes derrière lui, mais vous mettez des putains de CD sur une putain de corne de licorne. Et ça, c'est quand même totalement jouissif. Surtout que comme la corne est légèrement, vous voyez, vrillée, vous mettez le CD, vous faites bzzz, il va à sa place. C'est quand même...
Alors,
don't look at me like that. I'm perfectly serious and normal. Ça dépend comment tu l'utilises. Voilà, je vous fais aussi le débat sexe. Hein, ça, c'est pour gagner.
Il y a des écrivains qui sont pas capables de faire de l'humour ou de donner dans l'humour. Alors pourquoi est-ce que vous en êtes capable? Quelle est la différence? Est-ce qu'il y a... Je me pose la question, quoi. Mais c'est vrai, il y a des gens, ils n'arrivent pas à écrire de l'humour. Est-ce que c'est lié à la...
Je pense que c'est une question de caractère, ou c'est peut-être parce que... on s'est rendu compte qu'un certain nombre de choses étaient un peu dérisoires, et du coup on a cette capacité à se mettre de côté, à se moquer de nous-mêmes ou à voir les choses en un peu décalé. Mais C'est très compliqué de répondre à cette question.
Oui.
T'as des repas de famille où il y a des gens qui, chaque fois qu'ils ouvrent la bouche, ils font marrer tout le monde. Et il y en a d'autres, chaque fois que tu ouvres la bouche, t'entends...
Ah, c'est vrai que moi, quand j'étais plus jeune, j'étais facilement connue pour être le pitre de la classe. Je suppose que...
Non.
Lui, c'est quand il était plus vieux.
Je ne vois pas ce qui te permet de dire ça, Sylvie.
Tournure d'esprit, oui. Envie de faire rire, envie de prendre la distance, justement, c'est ça, je crois, surtout.
Ouais. Oui, distance, peut-être effectivement. Encore une fois, on est vraiment dans le désir du demi-pas de côté. Il y a des gens qui aiment ça, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Il y a des gens qui creusent leur sillon, puis il y a des gens qui vont sur le truc d'à côté. Moi, j'ai appris l'humour, je dirais l'humour involontaire, un jour où mon grand-père, je devais avoir 7 à 8 ans, m'avait amené à la chasse. Et nous étions donc partis tôt le matin, il devait être 6 à 7 heures du matin, il fallait partir à l'aube. Et il me dit, tiens, tu vas voir, petit, je vais te faire goûter un melon, tu vas voir comme ils sont bons à l'aube. Et il est passé dans le champ de melons et il m'a dit, regarde, ils sont tout luisants de rosée, regarde comme ils sont bons. Et puis il m'a dit, non, on va pas prendre ceux-là, attends un peu. Il a continué, il m'a dit, on va prendre ceux-là, tu vas voir comme ils sont meilleurs. Et il l'a accueilli, j'ai dit, pourquoi ils sont meilleurs? Il m'a répondu, parce qu'ils sont aux voisins.
Ouais, je vais quand même peut-être poser une question au public. Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, si quelqu'un veut le dire, qui vous intéresse dans la lecture de livres d'anticipation, de science-fiction humoristique ou de fantasy, ou enfin de littérature de l'imaginaire? Il y a quelqu'un qui veut s'exprimer? L'humour, c'est la vie. C'est joli, l'humour c'est la vie, ouais. C'est peut-être une conclusion après tout, hein? Oui.
Pour moi, le second degré ou le troisième ou le quatrième sont une des façons de faire. L'humour distancié, l'humour pince sans rire, l'humour gras, tout ça, ce sont des catégories à l'intérieur d'un truc qui sert basiquement à faire se marrer les gens, intérieurement ou extérieurement. Le second degré, c'est une des façons d'y arriver. Hein. C'est tout, c'est un des outils. C'est un petit peu comme si tu me disais quelle différence je fais entre un marteau et un tournevis. Tout ça, ça fait partie de la boîte à outils. Si je fais de l'humour et qu'on ne s'aperçoit pas que c'est drôle, mais que seul le lecteur intelligent au fait du second degré se dit « Ah, il est peut-être en train de plaisanter là », soit je me prends pour un auteur d'autofiction, parce que si ça se trouve, ces mecs sont de vrais marrants, mais personne ne s'en est aperçu. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, l'humour, c'est du partage, et c'est du partage premier. C'est-à-dire, l'humour, ça a pour effet de provoquer un effet. C'est pour donner, c'est pour partager, c'est pour se marrer ensemble ou au moins sourire. Ou au moins avoir un petit sentiment à l'intérieur de l'estomac qui, ça va bien. Et si tu le fais pas, si c'est caché sous trop de couches de texte, ben, tu peux expliquer ce que tu veux, c'est quand même pas drôle. Voilà. Et il y a de l'humour pas drôle, c'est même la catégorie qu'on rencontre la plus souvent. Hein, et moi-même, je suis extrêmement doué là-dedans. J'ai écrit beaucoup de choses dans ce sujet-là. Et c'est vrai que bon, ben, ça existe, mais... Voilà.
Alors... In my books, they've been translated in several languages, and most of the themes translate exactly the same. Sex, emotion, the adventure of it translates, but the humor translates different in every country that I'm translated in. And with each country, they find something different funny than from America to France to Germany. So it's strange how each culture finds their own sense of humor in them.
En fait, mes livres ont été traduits dans plusieurs langues, dans une douzaine de langues. Et tout ce qui concerne le sexe, les émotions, les aventures, c'est pareil dans tous les pays où je suis traduite. Mais l'humour est différent partout. Et ça m'amuse beaucoup de constater à quel point on trouve des choses différentes dans mes livres pour rire. Donc c'est un petit problème parce que ce n'est pas toujours la même chose qui fait rire dans les différents pays où je suis traduite.
Alors pour parler notamment du second degré ou de l'humour un petit peu plus caché ou un peu plus référencé, donc nous je sais que bon bah dans la serre il y a des tas de scènes qui sont rigolotes par elles-mêmes parce que ça va être de l'humour de situation où il y a des jeux de mots qui sont très évidents, mais on a aussi caché des tas de petits trucs pour les gens qui sont un peu plus du milieu, par exemple des noms de personnages qui quand on connaît vont évoquer un tel, des petits bouts de phrases qui vont être des titres de bouquins, des choses. Ce qui fait que du coup, le lecteur un peu plus informé, un petit peu plus au fait, qui a l'habitude de lire les auteurs ou autres, va retrouver des choses en disant « Ah oui, tiens, ça c'est amusant aussi. »
C'est l'humour geek, en fait.
Voilà, c'est ça. On a aussi de l'humour geek.
Typiquement, il y a un de mes personnages geek avec une histoire de troll là, qui est apparue, et il s'appelle Sheldon. Ça ne surprendra personne. Mais il est vraiment comme ça.
Ok. Alors, moi, je crois qu'on arrive gentiment au terme de ce café littéraire. Moi, je remercie tous les auteurs présents d'avoir répondu à quelques questions avec humour. Et je vous invite à les retrouver. Je vous invite à les retrouver sous la bulle du livre, acheter leur livre et rire un bon coup en les lisant, quoi. Voilà. Et merci beaucoup.
Et la modération était assurée par Jean-François Thomas, qui n'est pas un triste non plus et qui peut le prouver dans un certain nombre d'ouvrages.